RGB Info, le journal Claire Vigée, bonsoir.
Bonsoir. Berne continuera d'investir à Moutier jusqu'à la date officielle du transfert de la ville dans le canton du Jura. Les dépenses se limiteront aux investissements jugés absolument nécessaires. Nouveau contretemps pour le campus de la Haute École bernoise à Bienne. Le tribunal fédéral a accepté le recours d'un propriétaire menacé par la ville d'expropriation. Il y a 20 ans, jour pour jour, 11 parlementaires et 3 conseillers d'État perdaient la vie lors d'une séance du Parlement zougois. Membre de l'exécutif bernois à cette époque, Mario Anoni se souvient. Et puis des nuages ce soir et cette nuit avec quelques zones d'averses probables. Demain, début de journée sous la grisaille mais au sec, le ciel s'éclaircira au fil des heures. Le conseil exécutif va continuer d'investir raisonnablement dans la commune de Moutier. Le gouvernement bernois a répondu la semaine passée à une motion de l'UDC qui exigeait que le canton limite au minimum les investissements dans la cité prévotoise. Le conseil exécutif assure qu'aucun grand projet n'est prévu d'ici au transfert de Moutier dans le canton du Jura. Berne se doit toutefois d'entretenir les infrastructures cantonales jusqu'en 2026. Les précisions de Valentine Courvaya.
Le canton de Berne continue d'être en charge des routes et des bâtiments cantonaux ces prochaines années. En revanche, le conseiller exécutif confirme qu'il n'y aura pas d'investissement important sur la commune de Moutier d'ici son départ du canton. Le gouvernement estime que des grands projets pourraient aller contre ce que le canton du Jura voudrait faire de ses infrastructures une fois le transfert opéré. Ce principe avait déjà été approuvé en 2019 par le gouvernement jurassien et le département fédéral de justice et police. Le canton continuera donc de payer pour de nouveaux aménagements pour les routes et les bâtiments cantonaux jusqu'en 2026. Il est tenu d'en garantir la sécurité. Des dépenses non prévues concernant la sécurité de ces infrastructures cantonales pourraient donc se produire, prévient le conseil exécutif.
Le gouvernement propose donc au Grand Conseil d'adopter cette motion lors de sa prochaine session. La saga du campus de la Haute École spécialisée bernoise à Bienne se poursuit. L'inauguration, prévue dans un premier temps en 2022, avait été repoussée en 2025. L'appel d'offres lancé en vue de la réalisation du chantier laissait apparaître des coûts beaucoup plus élevés que le crédit voté par le Grand Conseil. Aujourd'hui, c'est une décision du tribunal fédéral qui risque de faire perdre du temps au projet. Lydiane Guenat.
En cause, l'expropriation du propriétaire de 2 parcelles situées sur le site du futur campus. Il était prévu que la ville de Bienne se charge de la procédure et mette ensuite les terrains à disposition du canton de Berne sous la forme d'un droit de superficie. Débouté en mars par le tribunal administratif bernois, le propriétaire des 2 parcelles avait saisi d'un recours les juges de Montrepos et il a été entendu. Le TF estime que la construction et l'exploitation d'une HES sont des tâches cantonales. Par conséquent, il incombe au canton de Berne de mener la procédure d'expropriation et non aux autorités communales biennoises. Une décision qui pourrait encore retarder le début des travaux.
Autre retard à Courgémont, cette fois-ci, il concerne les travaux de rénovation du bâtiment municipal. Les autorités curgismondaines ont annoncé vendredi dans la feuille d'avis qu'il faudra compter 2 à 3 mois de plus pour inaugurer les locaux réaménagés. 2 facteurs sont en cause, les explications du maire de Courgémont, Denis Bessir.
Dans un premier lieu, nous avions le clocher existant. On avait prévu de faire une certaine rénovation du clocher existant. Et après étude auprès du bureau d'architecture, on a décidé de modifier ce projet. Et ça a déjà pris du retard. Et le deuxième élément, c'est que le prix du matériel a fortement augmenté. Et puis les offres initiales, notre architecte a dû redemander aux différents artisans de refaire de nouvelles offres pour savoir si on était vraiment dans le prix initial ou il n'y a pas du tout. Et puis là aussi, ça nous a pris des semaines supplémentaires, d'où ce retard.
Et du coup, ça va coûter plus cher qu'initialement prévu?
Alors sur le projet initial, ce que les citoyens ont voté aujourd'hui, il reste le même.
Denis Bessir qui répondait au téléphone de Lydiane Guenat. À part ce retard, les autorités de Courgémont soulignent que les travaux se passent très bien jusqu'ici. Elles espèrent une inauguration du bâtiment rénové au début du printemps 2022. C'était il y a 20 ans, le 27 septembre 2001. Un homme déguisé en policier pénétrait dans le Parlement de Zoug et ouvrait le feu, tuant 14 personnes, 11 députés et 3 conseillers d'État avant de se donner la mort. L'assassin se croyait la cible d'un complot gouvernemental. Mario Annoni, alors conseiller d'État bernois, s'en souvient très bien. Et 20 ans plus tard, la montée de la rancune, voire de la haine contre les autorités politiques sur fond de crise sanitaire, ne le laisse pas indifférent. Mario Annoni.
Ça m'inquiète, ça inquiète tout le monde, ça inquiète tous les observateurs de la société, parce que cette rancune vis-à-vis de ceux qui dirigent la société, vis-à-vis des responsables politiques, il faut le dire, responsables économiques, responsables politiques, cette rancune est totalement irrationnelle, et on ne sait pas exactement à quoi elle tient. Et au-delà de la rancune, ça devient une haine, et elle déclenche chez certaines personnes une violence extraordinaire. On a des exemples, et ces exemples sont véhiculés par les réseaux sociaux qui mettent encore une couche supplémentaire au niveau de l'extraordinaire, au niveau des choses qui sont irrationnelles. Et puis après, il y a le mélange de la passion, de la haine, il y a la peur de la pandémie qui se mêle, et ça crée des profils... quand même, il faut le dire, dangereux pour la paix sociale et la paix civile. Et là, on doit faire attention. Et quand on découvre une personne qui est en train comme ça de dévier, il faut l'entourer et essayer de la convaincre de raisonner de manière différente.
La tuerie de Zoug a eu des répercussions immédiates en Suisse en termes de sécurité. Jusque-là, le Rathaus à Berne était visitable quasi librement pendant les sessions du Grand Conseil. Mais depuis la tuerie, des contrôles ont été instaurés à l'entrée du bâtiment. Mieux lutter contre la criminalité internationale et le terrorisme. La Suisse va améliorer sa coopération avec les polices européennes et américaines. Après le Conseil des États, le national a approuvé aujourd'hui sans opposition plusieurs accords visant à faciliter la comparaison rapide de profils ADN et d'empreintes digitales. Il n'y a pas d'affaire Maurer au sein du Conseil fédéral. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, n'a pas voulu dire cet après-midi devant le Conseil national si son collègue Oeli Maurer avait violé la collégialité. Les députés socialistes avaient rédigé 9 questions précises et insidieuses tentant à démontrer qu'Oeli Maurer avait pris des positions contraires à celles du gouvernement. En 30 secondes, Guy Parmelin a sèchement et légalement éteint l'incendie.
En vertu de l'article 21 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, les délibérations du Conseil fédéral se déroulent à 8 clos. Le principe de la collégialité, qui est fixé à l'article 12 de cette même loi, implique en outre que les discussions menées dans le cadre des séances du Conseil fédéral restent confidentielles et ne sont pas communiquées à des tiers. Dans le même esprit, le Conseil fédéral ne commente pas les propos que l'un de ses membres a ou aurait prononcés en public. Toutes les décisions du Conseil fédéral sont prises de manière collégiale.
Cette altercation mortelle à Lausanne, un Neuchâtelois de 20 ans a perdu la vie après une bagarre survenue dans le secteur du Flon dans la nuit de samedi à dimanche. Un autre jeune homme de 21 ans, également domicilié dans le canton de Neuchâtel, a aussi été hospitalisé. Il est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement des faits. Les élections fédérales allemandes débouchent sur une période qui s'annonce instable. Ce scrutin de l'après Angela Merkel est marqué par la légère avance des sociaux-démocrates du SPD. Il récolte 25,7% des suffrages. Emmené par Armin Laschet, l'alliance CDU-CSU de la chancelière signe le score le plus bas de son histoire avec 24,1%. Il y a quelques mois, le SPD et son chef de file, Olaf Scholz, comptabilisaient pourtant moins de 15% des intention de vote. Professeur en histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel, Christina Schulz est allemande. Elle nous explique pourquoi, selon elle, ce parti sort gagnant du scrutin.
Son parti et lui ont énormément gagné pendant les crues, pendant ces inondations. Et c'est là, je pense, peut-être la SPD était plus sur place, avait plus pu montrer en quoi la politique peut aider aux gens, peut être proche des gens. Et puis là, Laschet, il a commis son plus grande erreur, en fait. Et aussi, peut-être la politique du Covid, hein, enfin des mesures contre la maladie du Covid. Hein. Là, Scholz, il était peut-être plus mesuré, plus proche des gens. Plus à l'écoute aussi, et donc les gens lui font plus confiance.
Ces résultats pourraient déboucher sur une période d'incertitude avec de longues négociations en vue de la formation du futur gouvernement. Le gigantesque procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 800 blessés à Paris se poursuit. La parole est désormais aux parties civiles. Pendant 5 semaines, des victimes, rescapés et des proches de ceux qui sont décédés lors de ces attaques vont prendre la parole devant devant le tribunal. Des moments qui s'annoncent forts en émotion. Notre correspondante en France, Stéphanie Wenger, a rencontré des témoins en marge des audiences de la Cour spéciale. Son reportage.
C'est une phase décisive du procès qui s'ouvre cette semaine. Philippe Duperron est le président de l'association 1315 Fraternité Vérité et le père de Thomas, décédé sous les balles des terroristes du Bataclan. Il décrit les attentes suscitées par les 5 semaines de témoignages.
C'est le moment où toutes les victimes, qu'elles soient d'ailleurs survivantes ou que ce soit, comme c'est notre cas, les parents de victimes décédées, vont pouvoir déposer devant la justice et devant les accusés, ce qu'elles ont vécu, la douleur. Moi aussi, en tant que président de l'association 1315, je vais pouvoir incarner ces victimes, comme mon fils, qui ne sont plus là pour témoigner, elles, de ce qu'elles ont vécu. Je vais pouvoir incarner également ces victimes qui ne peuvent pas, ne veulent pas, n'ont pas la force, en fait, de venir témoigner parce que la douleur est encore trop vive.
Edith Sera, 43 ans, a survécu à l'attaque du Bataclan. Si elle appréhende le moment où elle va devoir prendre la parole à la barre, c'est pour elle une étape essentielle.
Puis on a envie que ça compte, on n'a pas envie de venir pour faire du blabla qui ne sert à rien. Donc c'est pas si simple, je pense, de construire ce témoignage. Il y a la notion de poids, de lourdeur administrative et de complexité de l'affaire, et surtout la dimension que ça prend, le nombre de témoignages. J'ai l'impression qu'il illustre la dimension en fait, absolument spectaculaire, la notion de mémoire en fait. La mémoire, vraiment. C'est en tout cas quelque chose qui me tient à cœur.
Pour Gaëtan Honoré, également rescapé du Bataclan, l'occasion sera aussi d'aborder le calvaire qu'a représenté pour les victimes le dossier des indemnisations. Mais prendre la parole devant la cour et se confronter aux accusés n'est pas simple.
Mettre un visage sur tout ça, c'était vraiment pas simple du tout, quoi, clairement. Et c'est ce qui peut constituer une de mes sources d'inquiétude, m'exprimer devant eux, devant le reste des victimes. Enfin, y a plein de questions qui jouent, quoi. C'est vraiment très complexe, mais c'est indispensable selon moi.
Le reportage à Paris de notre correspondante Stéphanie Wenger. Un mot de sport, il y aura finalement 2 clubs régionaux en 8e de finale de la nouvelle National Cup de hockey sur glace. Compétition qui se veut une sorte de résurrection pour les clubs amateurs de la Coupe de Suisse abandonnée l'année dernière. Le HC Franche-Montagne, éliminé lors des tours préliminaires régionaux, a été repêché à l'issue d'un tirage au sort. Les Teignons accueilleront Mérin-Genève qui évolue également en Première Ligue. Le HC Saint-Imier qui s'est qualifié à la régulière recevra Yverdon-les-Bains, également pensionnaire de Première Ligue. Les matchs auront lieu le 23 octobre.